Vous écoutez Cédric du Sport sur Choc FM.
On est de retour sur Choc FM dans Cédric du Sport avec la première partie. On a parlé beaucoup, beaucoup de soccer avec un gros plan évidemment sur les ligues européennes. On a l'habitude de le faire. Je pense que dans le futur, on va essayer d'intégrer un peu plus les ligues africaines puisque, et je peux l'annoncer déjà, d'ici maximum 2 semaines, on va faire une spéciale sur la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Donc, on a un invité déjà. On avait prévu de faire l'émission la semaine prochaine, mais je ne pense pas que ce sera possible pour des raisons logistiques, de mon côté, parce qu'il va falloir que déjà que je m'assure que l'invité sera présent, mais surtout que j'en ai plus qu'un, parce que ouais, on est en train d'essayer d'organiser ça. Donc ce sera soit le 23 décembre, soit le 30 décembre. On est en train de penser à cela. Donc je disais qu'on a parlé de soccer, les ligues européennes, en long et en large. On a parlé aussi de la MLS un petit peu, là, avec la fameuse nomination de Léo Messi pour le trophée de... Enfin, trophée. Le titre de personnalité sportive de l'année. J'ai donné mon avis très clairement. Je ne pense pas qu'il le mérite, mais ce n'est que mon humble avis, là. Et puis, on a parlé aussi de l'hommage qui a été fait à Christine Sinclair pour sa dernière prestation sous le maillot de l'équipe du Canada, car elle marquait sa retraite internationale. Là, on est en deuxième partie pour parler de football encore, mais football nord-américain avec la NFL. Déjà, le détail des matchs en ce samedi 9 décembre. Certains matchs, comme vous le savez, dans la NFL ont lieu le jeudi, d'autres ont lieu le lundi, et la plupart des matchs ont lieu le dimanche. Donc, le jeudi soir, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont battu à la grande surprise les Pittsburgh, les Steelers, 21-18. Dans ce match-là, les Pittsburgh étaient largement favoris puisqu'ils accueillaient, c'était chez eux, et qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de perdre contre des équipes qui ont un bilan négatif. Si je pense bien, avant ce match-là, les Patriots n'avaient gagné que 3 matchs durant toute la saison, alors que les Steelers étaient à 7 victoires déjà. Donc c'était un duel qui était censé être déséquilibré, mais apparemment les Patriots ont fait comme un genre de hold-up et c'est tant mieux pour eux. Dans les matchs de 13h le dimanche, les Texans vont jouer contre les Jets. Là, les Texans sont sans doute favoris puisque les Jets font une saison comme d'habitude catastrophique, d'autant que leur quart arrière, Aaron Rodgers, est toujours blessé. On annonce qu'il pourrait revenir le 21 décembre, mais j'y crois pas trop. Et puis quel serait l'intérêt? Le 21 décembre, la saison sera à quoi? À peu près à un mois du Super Bowl, quel est l'intérêt de le faire venir puisqu'ils n'iront pas au Super Bowl? Oui, ils n'iront pas tout simplement parce qu'ils ont un bilan qui est trop mauvais pour l'instant. Les Rams de Los Angeles vont jouer contre les Ravens de Baltimore. Là aussi, c'est le dimanche à 13h. Les Rams qui pourraient réaliser une belle prestation, mais il faut savoir que Baltimore, à Baltimore, c'est une équipe qui est impitoyable. Donc, ça promet une lutte accrochée, mais Baltimore est clairement favori sur cette confrontation-là. Les Panthers de la Carolina vont jouer contre mon équipe, et je l'assume totalement, hein, les Saints de la Nouvelle-Orléans, c'est mon équipe. Et là, les Saints n'ont pas droit à l'erreur puisqu'ils ont maintenant une fiche négative, si je me rappelle bien, de 5 victoires et 6 défaites. S'ils perdent ce match-là, les rêves de playoffs seront sans doute à abandonner. Indianapolis, les Colts, dans un des autres matchs du dimanche à 13h, vont jouer contre les Bengals de Cincinnati. Ces deux équipes-là n'iront sans doute pas en playoffs. Les Buccaneers de Tampa vont jouer contre l'Atlanta, les Falcons. Là encore, une confrontation d'équipes qui n'iront sans doute pas en playoffs. Jacksonville, les Jaguars. Jacksonville qui fait une belle saison, qui va jouer contre Cleveland, les Browns, qui ont perdu leur carrière il y a quelques semaines. Donc Jacksonville aura l'occasion d'améliorer encore plus son bilan actuel. Mais bon, Cleveland, avec l'esprit de fierté, peut-être qu'il pourrait réaliser aussi là une belle performance. Le dernier match de 13h, le dimanche, ce sera Detroit, les Lions, qui vont jouer contre Chicago, les Bears. Les Bears, c'est comme d'habitude, hein? Et c'est très connu pour tous ceux qui sont les fans de la NFL. Chicago, c'est une équipe qui déçoit chaque année. Et pour ça, excusez-moi, Chicago, c'est une équipe qui déçoit chaque année. Ils n'ont pas manqué de le faire au cours des dernières années. Et je ne pense pas qu'ils vont changer la tradition ce dimanche face à Détroit, qui est l'une des grandes surprises cette année en NFL. Détroit qui ouais, très très performant cette équipe-là. Les matchs de 16h, comme je vous disais en NFL, il y a les matchs sur 3 jours, donc le jeudi, le dimanche et le lundi. Mais le dimanche, c'est en 3 parties, à 13h, à partir de 16h et enfin la dernière grande affiche à 20h. Donc à partir de 16h05, c'est les Seattle et Seahawks qui vont jouer contre les 49ers de San Francisco. Là aussi, avantage aux San Francisco les 49ers, parce que quand ils sont dans leur club, pardon, dans leur stade magnifique, je pense que ça s'appelle le Levi Stadium, un stade qui avait coûté 4 milliards de dollars à l'époque, c'était énorme, mais magnifique stade. Ben, quand ils sont là, chez eux, ils sont assez impitoyables, mais bon, peut-être que Seattle aura à cœur de se rattraper, parce qu'ils sont sur quelques semaines difficiles en NFL. Les Vikings de Minnesota vont affronter les Raiders de Las Vegas. Ça aussi, c'est un autre match à 16h. Que dire sur ces deux équipes-là? Pas grand-chose. Minnesota, depuis plusieurs années, n'arrive pas à enchaîner des belles performances. Les Raiders, qui avaient licencié leur coach ainsi que plusieurs personnels du staff, ben, assez indécis sur cette confrontation-là. Broncos contre les Chargers, ça ce sont deux équipes qui sont assez en forme. Les Broncos qui avaient commencé la saison de manière catastrophique et puis depuis disons un mois qui sont en train de se rattraper. Actuellement, il est possible qu'ils aillent quand même en playoff. On pensait que Russell Wilson, l'ancien carrière de Seattle, qui avait signé un contrat béton magnifique, plus de 40 millions de dollars par année pour rejoindre Denver, et en train de retrouver sa forme de son année où il était MVP. Donc, ben on est content de retrouver cette version-là de Russell Wilson. Donc, contre les Chargers seront chez eux. Ce sera un duel à suivre. Les Bills, ça c'est l'une des équipes déception de cette année, Buffalo Bill. Je vous invite chaque année, pardon, chaque année, chaque semaine, je vous le dis, sur Cédric du Sport, si vous voulez connaître ce que c'est la passion du football, tapez dans YouTube Buffalo Mafia. Donc ça, ce sont les fans des Buffalo Bills, ce qu'ils font pendant ce qu'on appelle le tailgate. Donc c'est, disons, l'échauffement avant le match. C'est même pas l'échauffement avant le match. Ce sont les genres de célébrations avant le match où tout le monde mange, prend des bières, des choses comme ça, dans le parking du stade. Écoutez, ils font des choses absolument incroyables. Je me rappelle une fois, il y en avait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ils faisaient un concours du style. Ils montaient à l'arrière d'un pick-up et ils sautaient sur une table en bois. Est-ce qu'on peut faire plus fou que ça? Mais c'est leur façon de s'amuser et je trouve ça absolument remarquable. Ils montrent véritablement une vraie passion pour leur équipe. Cependant, leur équipe cette année, ils ont enchaîné plusieurs mauvaises performances. Il y a eu plusieurs matchs où ils menaient, où ils ont perdu à la fin. Et c'est dommage pour Buffalo parce que il y a eu quand même, on a pensé pendant plusieurs années qu'ils étaient proches de revenir au Super Bowl. Il faut noter, pour ceux qui connaissent le football américain, la NFL, Buffalo, c'est sans doute l'équipe dans l'histoire du sport américain qui était 4 fois en finale consécutive et qui a perdu 4 fois de suite. Ils ont réussi à faire ça. C'est assez incroyable, hein. Je ne devrais même pas dire réussi à faire ça. Parce que c'est un échec massif, mais aller 4 fois en finale d'affilée et perdre 4 fois, c'est assez fou. Mais c'est dire qu'il y a un potentiel. En tout cas, ils vont aller jouer à Kansas City chez les Chiefs, qui sont ultra favoris dans ce match-là. Ça, ce sera une rencontre à suivre aussi. Et enfin, les deux matchs de 20h, il y aura d'un côté les Eagles de Philadelphia, qui n'ont qu'une défaite jusque-là pendant toute la saison contre les Cowboys. Ça, ce sera un match absolument à suivre parce que, selon certains observateurs, analystes de football américain, les Dallas Cowboys sont maintenant les favoris pour aller au Super Bowl. Moi, j'y crois pas parce que, vous savez, les Cowboys, on appelle ça America's Team, c'est comme l'équipe chérie des Américains, mais j'y crois pas, tout simplement, parce que c'est ce genre d'équipe-là où il y a beaucoup de hype, ok? Avec tout le respect que j'ai, par exemple, pour les Maple Leafs, c'est un peu pas dans le même style. C'est une équipe qui a une grande tradition, c'est une équipe qui a de gros investisseurs, mais c'est une équipe surtout qui n'a rien gagné depuis longtemps. Les Leafs n'avaient rien gagné depuis 1967, les Dallas Cowboys n'ont rien gagné depuis 1995, si je dis de mémoire, donc près de 30 ans maintenant. Donc, à un moment donné, la hype, ça donne. Ouais, ça fait vendre des maillots, mais pas autre chose, quoi. Mais bon, ça va être une rencontre intéressante. Enfin, l'autre match du dimanche, c'est les Green Bay, les Packers qui vont jouer contre New York, les Giants. De ce côté-là, ben, je pense que les Giants vont perdre encore. Mais bon, Green Bay aussi, qui n'est pas une équipe extraordinaire cette année, c'est à voir. Et enfin, le dernier match, ce sera le dimanche, pardon, le lundi, le 11 décembre. Donc, ce sera Tennessee, les Titans contre Miami, les Dolphins. Et là, je pense que ça va être un massacre, puisque Miami, c'est l'une des équipes tout simplement les plus redoutables de la Ligue, de la NFL. J'allais dire Ligue nationale de football. Mais en fait, ça ne se dit pas. C'est NFL, hein, National Football League. Donc, bref. Ils ont un carrière qui s'appelle Tua Tagovailoa, qui est vraiment très très bon, qui a subi des commotions cérébrales au cours des dernières années, mais qui reste solide, qui reste constant. Et puis, il a avec un de ses joueurs, l'un des scoreurs, on dit running back, qui s'appelle Tyreek Hill. Lui, écoutez, si vous voulez avoir la définition d'athlète, c'est vraiment lui, quoi. Quand ce gars-là a le ballon et qu'il démarre, c'est absolument incroyable de voir ça. Donc, Tennessee, les Titans contre Miami, les Dolphins, ben, moi je promets un massacre. Massacre des Dolphins contre les Titans. Je voulais dire un mot, et ça je le fais pas souvent, sur ce qu'on appelle college football, donc le football universitaire. Il y a eu la sélection qui a eu lieu en début de semaine. Ce qui se passe dans le football universitaire américain, c'est que il y a un comité de sélection. Je ne sais pas combien de personnes sont là-dedans, mais c'est d'anciens joueurs, des anciens coachs. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regroupent les résultats des équipes de toutes les conférences ou de toutes les subdivisions de toute l'Amérique et on prend les équipes qui ont les meilleurs bilans. Ça, c'est, disons, logique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que parmi les équipes qui ont été choisies, parmi les quatre, parce qu'il n'y en a que quatre qui sont choisies, il y a une équipe qui n'a pas été retenue, si je pense de mémoire, c'est Georgia Football, mais qui n'a perdu aucun match de toute la saison. Et pour ça, je vais dire, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment très surpris par ce comité de sélection-là. Écoutez, si vous suivez un peu les chaînes américaines, que ce soit ESPN, que ce soit TNT, vous allez entendre parler de college football, vous allez, ceux qui comprennent l'anglais, vous allez voir qu'il y a toute une controverse là-dessus. Pour moi, c'est un système qui est archaïque. On ne peut pas sélectionner des équipes juste parce qu'on a des connexions, mais il faut que les équipes les plus méritantes puissent être qualifiées pour les playoffs. Avant de passer à la NBA et à la NHL, je voulais dire un mot, je le fais chaque semaine, ce qu'on appelle le compte à rebours vers les Jeux Paris 2024, puisque ces Jeux-là auront lieu le 26 juillet 2024 au 11 août 2024. Ce sera à Paris, aux cérémonies d'ouverture au jardin du Trocadéro et sur les quais de la Seine. Je pense que ça va être magnifique. Et la cérémonie de clôture au Stade de France, ça va être beau, ça va être beau. Je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Au moment où cette émission est enregistrée et au moment où vous allez l'écouter, il restera 231 jours. Je pense, avec mes petites notions de maths, 231 jours, je pense c'est comme 33 semaines, quelque chose comme ça. Donc, un peu plus de 8 mois. Écoutez, ceux qui auront l'occasion d'y aller, tant mieux. Si je peux y aller, j'irai. Et je vais pas. Et ceux qui connaissent les athlètes qui veulent se qualifier, je vous dis encore une fois, allez les supporter parce que les Jeux Olympiques, c'est l'aventure d'une vie. Il y a des personnes, dont notamment certains sports très spécifiques, comme l'haltérophilie, comme la lutte olympique, comme quel sport je vais vous donner je sais même pas. Il y a certains sports vraiment sont connus que grâce aux Jeux Olympiques. Et ce sera vraiment l'occasion de connaître certains de ces sports-là. Et bien sûr, nous allons supporter les athlètes canadiens, les athlètes français, les athlètes francophones en général et les athlètes africains. Donc, les Jeux de Paris 2024, ce sera dans 33 semaines. On va dire un mot sur la Ligue nationale de hockey, donner les classements. Dans la division, dans la conférence Est à la division Atlantique, c'est Boston qui est en tête. Je vais revenir dessus puisque j'étais allé leur rendre visite lors de leur match samedi dernier contre les Toronto contre les Toronto Maple Leafs. Deuxième, c'est les Panthers de la Floride. Ensuite, c'est les Red Wings. Grosse surprise de la saison, les Red Wings qui font une saison, très bonne saison, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Détroit. Quatrième, les Maple Leafs. Cinquième, Lightning. Sixième, Canadiens. Septième, Buffalo. Et dernier, les Sénateurs d'Ottawa. dans la division métropolitaine, c'est New York, les Rangers en tête, suivi par la Caroline, troisième, Philadelphia, les Flyers, quatrième, les Capitals de Washington, New York Islanders, cinquième, derrière eux, ce sont les Pittsburgh Penguins, ensuite New Jersey, les Devils et les Blue Jackets. Donc, on passe directement à la conférence Ouest dans la division centrale, Central Division. C'est Colorado, l'Avalanche, ils sont en tête depuis le début de la saison. On rappelle qu'ils étaient champions il y a encore 2 ans. Hein, okay. Donc, ça reste une équipe très solide, très compétitive. Derrière eux, c'est Dallas, ensuite Winnipeg, les Jets. La seule équipe canadienne compétitive cette année, c'est uniquement Winnipeg. Les Coyotes de Arizona, ensuite les Blues, les Predators de Nashville, les Wild. Et dernier, bon dernier, c'est les Blackhawks. Je vous avais expliqué l'année dernière la controverse qu'il y avait eu chez les Blackhawks, qui avait dû licencier un de leurs joueurs. Et ça arrive très, très, très souvent, très rarement en Ligue nationale de hockey qu'un joueur soit licencié. Et on ne sait toujours pas la raison de son licenciement. C'est quelque chose qui est assez incroyable. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. Mais bon, c'est la Ligue qui décide de ne pas donner de détails là-dessus. Et tant mieux, on va respecter cela. Dans la division Pacifique, c'est Las Vegas et Golden Knights qui sont en tête, suivis par Vancouver, les Canucks et les Los Angeles, les Kings, suivis par les Flames de Calgary, Seattle, les Kraken, Anaheim, les Ducks, les Oilers, écoutez, les Oilers, quelle catastrophe, avant-dernier dans leur division, alors qu'ils ont deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, ils n'ont toujours pas résolu le problème du gardien. Et pour finir, ce sont San Jose, les Sharks, qui ferment le classement. Je voulais dire un mot et je vais vous inviter à écouter mon reportage chez les Toronto Maple Leafs qui a eu lieu samedi de la semaine dernière. Je vais vous raconter comment s'est passée la soirée. Bon, je connais les lieux. Hein. Je couvre les Toronto Maple Leafs depuis longtemps. Donc, comme d'habitude, je suis arrivé à la salle de presse, regarder un peu, prendre la température, regarder les classements et tout ça. Il faut savoir que ce match-là avait une atmosphère un peu particulière puisque Boston, c'est l'une des équipes que les Maple Leafs détestent le plus et que surtout dans ce match-là, il y avait un joueur qui est vraiment détesté à Toronto qui s'appelle Brad Marchand. Et Brad Marchand qui était attendu, à chaque fois qu'il touchait la puck, la puck c'est en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça palais, et il était hué par la foule. Donc dans ce match-là, ça s'est fini 3-3 en temps réglementaire et 4-3 avec un but en prolongation du fameux Brad Marchand. Et encore une fois, je vous invite à aller écouter le reportage. Mais les Maple Leafs étaient... C'était étrange de les voir aussi amorphes dans ce match-là. J'étais vraiment surpris. J'étais vraiment surpris. C'est comme s'ils avaient peur de perdre, mais à la fois peur de gagner. C'était vraiment étrange. Et là, en cours de semaine, là, j'ai appris que leur gardien titulaire, qui s'appelle Joseph Woll, s'est blessé. Écoutez, ça, c'est le scénario catastrophe. Parce que ils arrivent à la période de ce qu'on appelle les trades, les échanges, les transferts. Ils n'ont tout simplement pas de gardien de calibre NHL, donc Ligue nationale de hockey, qui est prêt. Samsonov est blessé. Martin, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre gardien, le troisième gardien, il a plutôt joué dans les ligues mineures. Écoutez, si vous avez des patins, que si vous avez un certain talent, allez peut-être les proposer au Toronto Maple Leafs. Non, sérieusement, ça va être compliqué pour les Leafs là. Surtout en défense, d'autant qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Parlant des joueurs de défense, dans le même reportage qui sera disponible, je pense, au moment où vous écouterez cette émission sur chocfm.ca, j'ai pu parler avec le gardien québécois. Il est de Laval, il s'appelle Simon Benoît. Il était très gentil, très sympa et il nous a accordé un petit peu moins de 2 minutes d'interview. Lui, il est lucide hein, sur ses performances personnelles. Pour l'instant, il n'a aucun but, aucune passe, mais ce n'est pas son rôle. Lui, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Ligue nationale du hockey, un stay-at-home defenseman. Donc, c'est comme un défenseur qui est là pour rester près du gardien. Il ne fait que défendre. Donc, il est très bien dans son rôle. Et franchement, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et en tout cas, c'était un plaisir d'aller revoir les Toronto Maple Leafs. Et on essayera de le faire encore avant la fin de la saison. Voilà, donc c'était ça pour le mot sur le hockey. On va, et je vous rappelle que vous êtes sur Cédric Sport, sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On va dire un mot sur la NBA, déjà avec les classements. Les classements dans la conférence Est, c'est Boston qui est en tête. 15 victoires, seulement 5 défaites depuis le début de la saison, suivi par Orlando, Grosse surprise à Orlando qui était dans les bas-fonds du classement depuis plusieurs années. Là, maintenant, ils sont deuxièmes à l'Est. Remarquable, ça. Ensuite, c'est Milwaukee. Ensuite, c'est Philadelphie. Ensuite, ce sont les Knicks, les Pacers, Miami, les Cavaliers, 8e. 9e, les Nets. 11e, pardon, 10e, Atlanta. 11e, les Raptors, Toronto. 12e, les Hornets. 13e, les Bulls. 14e, les Wizards. Et 15e, Detroit Pistons. Les Raptors sont actuellement 11e avec 9 victoires, 11 défaites. Je vous avais promis en introduction de donner mes impressions sur cette équipe-là. Écoutez, à la même période l'année dernière, les Raptors avaient 11 victoires, 9 défaites. Donc exactement l'inverse de ce qu'il y a maintenant. À l'époque, le coach c'était Nick Nurse. On sentait que l'équipe était moins motivée qu'avant, mais quand même, il y avait une certaine énergie. Honnêtement, je commence à me poser des questions sur le coach Darko. Selon les statistiques disponibles, les Raptors restent une équipe qui distribue mieux le ballon. Donc, ce qu'on appelle le ratio passe et action de jeu reste l'un des plus élevés de la ligue. Mais ça ne se traduit pas nécessairement par plus de scoring, donc c'est-à-dire plus de points marqués. Donc, le ballon est mieux distribué, mais ils ne convertissent pas leur action. Et ça, c'est très, très, très mauvais signe. Parce que déjà, donc, au sein de l'effectif, on va dire Pascal Siakam fait ce qu'il peut. Scottie Barnes a clairement un niveau All-Star, mais derrière, Dennis Schroeder, très inconstant. Precious Achiuwa, très inconstant. Le rookie, comment il s'appelle? Grady Dick, il a plutôt joué avec le Raptor 905 jusqu'à récemment. Et ça prend pas tout simplement. Écoutez, il y a des matchs qui perdent, on a du mal à comprendre ça. Là, je sais que en fin de semaine, ils vont jouer contre Charlotte. C'est un match absolument qu'il faut gagner. Il va falloir qu'à un moment donné, les Raptors décident ce qu'ils veulent vraiment faire. Est-ce qu'ils veulent, comment dire, perdre pour avoir un meilleur choix de draft et faire partir, par exemple, échanger Pascal Siakam, ou alors essayer d'être une équipe compétitive, parce que ça va faire 2 saisons de suite sans aller en playoff. C'est quelque chose qui n'a pas été vu depuis longtemps. Et je sais que le coach Masai Ujiri, lui, il n'aime pas la médiocrité. Et le président Masai Ujiri n'aime pas la médiocrité. On va dire un dernier mot sur les Raptors. Il y avait la visite d'une amie d'enfance qui était ici présente, s'appelle Géraldine Robert, qui a assisté au gala Giant of Africa. C'était, bon, j'ai pas pu la voir en personne, mais j'ai vu que elle était là. On a pu communiquer quand même. Ça a été une belle célébration. Vous savez, Giant of Africa, fondation créée par, il y a plus de 20 ans maintenant, par Massé Ojiri, qui œuvre pour la croissance du basket en Afrique, qui aide les jeunes Africains. Et c'est une fondation, entre autres, qui a permis l'émergence de joueurs comme Joel Embiid, comme Pascal Siakam, Precious Achiuwa. Très bonne chose. Très bonne chose. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour GG, c'est comme ça que je l'appelle. J'espère que tu as bien pu t'amuser ici à Toronto. Allez, on finit sur la NBA avec le classement à l'ouest, puisque c'est Minnesota qui est en tête. Seulement 4 défaites depuis le début de la saison dans la conférence ouest, suivie par Oklahoma City, le Thunder. Ensuite, c'est Denver, les Nuggets, Phoenix, les Suns, les Kings de Sacramento, Dallas Mavericks, les Lakers 7e, New Orleans, donc la Nouvelle-Orléans 8e, les Clippers 9e, les Houston les 10e, les Warriors, c'est vraiment la déliquescence, la chute totale chez les Warriors 11e, Utah les 12e, Portland les Trailblazers sont 13e, alors que les Grizzlies de Ja Morant, qui va bientôt revenir là, ils ont déjà 14 défaites en seulement 19 matchs. Et enfin les Spurs, qui restent sur une série incroyable de 14 défaites consécutives. Ça, la soupe à la grimace pour le jeune Victor Wembanyama. Là, j'espère que tu ne vas pas faire dépression, parce que là, c'est chaud ce qui lui arrive en ce moment-là. Il ne s'attendait pas, sans doute pas, à enchaîner autant de défaites consécutives. C'est dommage, c'est dommage. Clairement, les Spurs n'iront pas en playoff cette année. C'est dommage pour mon ami Kevin Issono. On avait fait un live et il pensait que les Spurs allaient enfin pouvoir se relancer. Mais c'est pas encore, ce ne sera pas le cas pour cette année. Un mot pour finir sur ce qu'on appelle en NBA, c'est un tout nouveau tournoi qui s'appelle le In-Season Tournament. Ça a été total déception, catastrophique pour les Toronto Raptors. Je pense que sur ce tournoi, ils avaient perdu tous leurs matchs. Et qu'en finale, après les confrontations, pardon, les demi-finales, en finale le samedi, ça va être Indiana les Pacers contre les Los Angeles Lakers. La qualité de ce tournoi-là, je ne sais pas, ça va sans doute attirer les annonceurs, ça va sans doute amener beaucoup d'animation dans la ville de Las Vegas. Je ne suis pas convaincu Oui, les décors sont bien, oui. Oui, ça va créer quelque chose de nouveau, quoi, en NBA. Mais je suis vraiment pas convaincu de la pertinence de ce tournoi-là. Maintenant, du point de vue business, ça fait vendre de nouveaux maillots, ça fait afficher de nouveaux parquets, un peu comme des versions de jeux vidéo. Là, c'est tant mieux pour la NBA. Vous savez, le commissionnaire de la ligue, là, Adam Silver, pour ça, il est très très fort. Maintenant, si ça devient comme ce qu'ils appelaient le NBA Bubble, donc le fameux tournoi Orlando, je m'interroge franchement sur la pertinence de ce tournoi-là. Pour finir, je vais dire un mot sur les statistiques individuelles rapidement pour finir cette émission de Cédric du Sport sur Choc FM, le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Pour l'instant, le leader des marqueurs, c'est Joel Embiid, suivi par Luka Doncic, Kevin Durant. Leader des rebondeur, c'est Nikola Jokic, suivi par Anthony Davis et Domantas Sabonis. Au niveau des passeurs, c'est Tyrese Haliburton, joueur magnifique à voir jouer. Je vous dis là, Tyrese Haliburton, allez voir ce joueur-là. Pour ceux qui connaissent le basket, on l'a surnommé le nouveau Chris Paul. Ok, donc Tyrese Haliburton, suivi par Trae Young et Nikola Jokic. Au niveau des contreurs, c'est Anthony Davis, suivi par Brook Lopez et Victor Wembanyama. Au niveau des 3 points, c'est Steph Curry, suivi par Tyrese Haliburton et Luka Doncic. Et au niveau des interceptions, c'est Shai Gilgeous-Alexander, suivi par Donovan Mitchell. Et enfin, Jalen Suggs des Orlando Magic. C'était sur cette page NBA que je conclue cette émission de Cédric du Sport en ce samedi 9 décembre. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Malgré ma voix cassée, qui a tenu, je suis assez surpris là. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone.
Vous écoutez Cédric Dispar sur Choc FM.